d'emploi. Mode d'emploi.
Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission des chômeurs et précaires mode d'emploi. Dans le cadre des cours sur le droit du travail, à l'initiative de Stop Précarité, donnée à la Bourse du Travail les premiers lundis de chaque mois, nous vous transmettons ce soir le débat sur la nouvelle loi de l'assurance chômage et ses nouveaux modes de calcul d'indemnisation. Cela s'est déroulé le 6 décembre 2021 avec Luc Chevalier de Sud, Jacques Lambert de la CNT, et Pierre Garnaudier de la CGT. Le prochain rendez-vous est le 10 janvier 2022 avec un nouveau débat sur les prud'hommes à la Bourse du Travail, 3 rue du Château d'Eau, de 19h à 21h. Intervenante, Hélène Ménot, universitaire, et Rachel Spire, avocate. Allez-y nombreux.
Quelques repères historiques. Alors, moi je vais vous faire trois trucs, là, en moins de 10 minutes. Les Bourses du Travail, puisqu'on est dans une Bourse du Travail. La deuxième chose, ça sera le service public de placement. Et la troisième et dernière chose, ça sera l'UNEDIC, on va dire l'indemnisation, pour être plus général. Alors, les Bourses du Travail. En fait, les discussions sur les Bourses du Travail, elles sont anciennes, elles datent des années 1870. Ça ne nous rajeunit pas. Il est question de, alors pour les patrons, c'est faut traiter les rapports de l'offre et la demande, et puis pour les travailleurs, c'est organiser la lutte contre l'exploitation capitaliste. Donc déjà, dès le début, c'est un peu bizarre, c'est ambigu, d'accord. Donc cette bourse-là existe depuis, je crois, 1887. Donc, elle a été créée assez rapidement. Elle va être fermée au tout début du XXe siècle parce que la loi sur les syndicats étant passée, les syndicats respectant pas tous la loi et occupant la Bourse du Travail, ben, c'est la municipalité qui décide de fermer la bourse. D'accord. Et voilà. Bon, tout ça, c'est pour cette Bourse du Travail, et c'est important. Hein. Il y en a certaines qui ferment, je crois savoir, et c'est quand même un lieu qui, à l'origine, est fait pour s'organiser entre travailleurs. Le service public de placement. Bien, à cette époque de création des Bourses du Travail, le service public de placement, c'est tout bêtement un placement privé. C'est des officines privées qui, en plus, se font rémunérer par les travailleurs pour obtenir un emploi. D'où l'utilité des Bourses du Travail, où le service devient quand même gratuit, et c'est plus un employeur qui décide voilà, pour un autre employeur. À partir de, on va dire après la Première Guerre mondiale, on a quand même l'Organisation internationale du travail qui précise que ça serait bien, enfin c'est une espèce de charte, hein, enfin, c'est un, comment on appelle ça ? L'Organisation internationale du travail. C'est pas une déclaration, c'est un article de... C'est une charte, enfin une convention numéro machin, qui décide que les bureaux de placement doivent être publics et gratuits. Autrement dit, on s'oriente. Il y a toujours des boîtes de placement privées, hein, de travailleurs, mais là, on s'oriente vers une obligation au niveau international, sachant que c'est une charte. Et que ben, en France, ça verra pas le jour avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette histoire. Donc on arrive en fait à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1945, où il va se passer pas mal de choses. Et en particulier, tout office ou bureau de placement payant est interdit. C'est-à-dire on rentre dans les directives de l'Organisation internationale du travail, 1945. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis pour le service public de placement, bah bien sûr, il y a la création de la NPE. Donc ça, c'est Chirac qui était Premier ministre, je crois, 1967, c'est un truc comme ça.
1969.
Ah, je ne sais pas.
67.
Oui, c'est 67. Et donc, obligation pour le patronat de faire connaître tous les emplois vacants. Bien sûr, les employeurs ne respectent pas, dès la création de la NPE, cette obligation. Et puis, on voit, en fait, comme tout office ou bureau de placement payant est interdit, on voit arriver les agences d'intérim. Voilà, on ferme un truc et aussitôt, le patronat se met un pied dans la porte. Et donc, voilà, les agences d'intérim commencent à s'implanter un peu partout. Là, il y en a plein de pouvoir magenta, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ça c'était pour le deuxième point, service public de placement. Troisième et dernier point, l'indemnisation. On a résumé ça sous le terme UNEDIC. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a déjà des caisses qui existent depuis, boum, 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 on va dire, l'industrialisation de la France, la deuxième moitié du 18e siècle, mais du 19e, pardon, mais c'est des petites choses. C'est tout petit. On a un fonds national de chômage qui est créé juste avant la Première Guerre mondiale. Ça commence. Et puis arrive 1945. Alors là, c'est une date très importante. Par rapport à cette Bourse du Travail, vous avez la plus grande salle du rez-de-chaussée qui s'appelle Ambroise Croizat. C'est le monsieur qui, en 1946, a fait voter... Ouais, bah c'est fini. Merci. J'ai dit 10 minutes maxi. A fait voter, en fait, la création de la sécurité sociale. Donc, toutes les branches. Alors, pourquoi ça arrive à ce moment-là? Parti communiste à 20% et armée. C'est tout con. On verra pourquoi j'insiste là-dessus. Là, je parodie Franck Lepage dans une de ses... Comment on appelle ça?
Conférences gesticulées.
Voilà, une de ces conférences gesticulées, d'accord, hein, j'insiste bien là-dessus. Alors, le prétexte, c'est qu'effectivement, la reconstruction donne du travail à tous. Donc, 1945, la Sécu est créée, mais on retire l'assurance chômage de la sécurité sociale. Arrive 1958, là, c'est très intéressant, puisque le PCF a toujours 20%, mais il n'est pas armé. Donc, le patronat en profite, et qu'est-ce qu'il fait? Il exige un organisme paritaire. Alors qu'en 1945, c'est vous et nous, c'est nous qui gérons l'intégralité de la sécurité sociale. C'est pour ça que je voulais insister là-dessus. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la CGT refuse de participer aux négociations parce qu'elle estime que ce n'est pas son rôle, hein, de gérer ça avec le patronat. Et puis elle veut autre chose. Elle veut autre chose, d'accord. Mais il n'y a plus le rapport de force, et malheureusement, on a un régime paritaire qui nous mène droit dans le mur. Les autres régimes vont devenir paritaires un peu plus tard. Je crois que c'est 1967, les ordonnances de trucs de Grenelle, les saloperies, là. Bon, voilà. Donc, les autres régimes vont être attaqués un peu plus tard, mais celui-là, dès le début, il est bancal. Il est bancal. Ensuite, deux dates. À partir du gouvernement socialiste, alors je n'ai pas la date exacte, je crois que c'est 1984, mais on a le retour à la charité avec la création du RMI, peut-être la SS, enfin un certain nombre de trucs qui reviennent à ce qui se passait au 19e siècle. C'est ouais. Exactement la même chose. Ouais. Hein, ils appellent ça, je ne sais pas comment, c'est de la charité. Et puis, on va dire 2008, création de Pôle emploi.
Vivre pour des idées. Pour des idées, l'idée est excellente, si bonne que partout.
C'est Martin, mon préféré, une vie à genoux est pire qu'une mort violente, est pire qu'une mort violente.
Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission des chômeurs et précaires, mode d'emploi. Dans le cadre des cours sur le droit du travail, à l'initiative de Stop Précarité, donnée à la Bourse du Travail les premiers lundis de chaque mois, nous vous transmettons ce soir le débat sur la nouvelle loi de l'assurance chômage et ses nouveaux modes de calcul d'indemnisation. Cela s'est déroulé le 6 décembre 2021 avec Luc Chevalier de Sud, Jacques Lambert de la CNT et Pierre Garnaudier de la CGT. Le prochain rendez-vous est le 10 janvier 2022 avec un nouveau débat sur les prud'hommes à la Bourse du Travail, 3 rue du Château d'Eau, de 19h à 21h. Intervenantes, Hélène Ménot, universitaire, et Rachel Spire, avocate. Allez-y, nombreux.
L'histoire de cette indemnisation du chômage en France, c'est l'histoire de comment faire pour pas indemniser 100% des chômeurs, quoi. Voilà. En gros, c'est ça le principe qui guide la logique de tout ça. Bon, Jacques, tu parlais de 80, de la séparation du régime avec le retour à l'assistance, et c'est effectivement 184, avec la création, avec la séparation donc, entre le régime d'assurance chômage conventionnel et, donc, le retour à l'assistance. Et derrière, avec en 88, le RMI, qui est devenu le RSA. Donc, de fait, on arrive à trois régimes d'indemnisation, entre guillemets, mais qui rompent avec la logique, en tout cas pour l'assistance et pour le régime dite solidarité, puisque la SS, c'est un pays. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est aussi, Jacques parlait de 2009. 2009, c'est Pôle emploi. Bah, c'est aussi la notion d'un jour travaillé, un jour indemnisé. Donc et l'introduction aussi d'une notion qu'on retrouve après dans plein de situations, d'individualisation, de création de compte derrière, de logique de création de compte, d'accumulation individuelle, hein, qui rompt avec la logique aussi du salaire socialisé et de l'indemnisation du chômage par un revenu de remplacement pour tout salarié privé d'emploi. Voilà. Donc ça, c'est bon, c'est des quelques repères de date, hein, 84... 2009, mais c'est pour aller effectivement assez vite en tout cas, mais pour démontrer en tout cas à quel point, ou même il y avait eu 82 avant avec l'introduction des filières, hein, sous le gouvernement Mitterrand, des filières qui commençaient déjà à diviser aussi les chômeurs selon la durée de travail, la durée pendant laquelle ils avaient travaillé. Voilà, donc il y a aussi tous ces éléments-là qui montrent ce que je disais, c'est-à-dire une logique de tout faire pour surtout pas indemniser tout le monde, que ce soit des personnes qui ont eu un travail ou des personnes pour qui c'était la qui n'avaient pas eu d'emploi mais qui pour le coup n'étaient pas indemnisées à leur entrée sur le marché du travail. Voilà, ça c'est un élément. L'autre élément, c'est que représente l'arrivée au pouvoir de Macron, c'est plusieurs choses. C'est au-delà de la réforme dont je vais parler après. C'est le fait de dire, de commencer à faire en sorte que, toujours dans la logique de poursuivre la rupture avec le salaire socialisé, c'est-à-dire de supprimer la cotisation salariale en 2018, voilà, commencer à fiscaliser l'allocation chômage, premièrement. Deuxièmement, là, je ne sais pas si vous avez peut-être vu, dans le projet de loi de finances 2022, l'introduction des dispositions qui commencent à introduire aussi faire en sorte que l'assurance chômage dépend des objectifs soit maîtrisés comme les dépenses de sécurité sociale, comme l'assurance maladie. Voilà, donc ça, c'est la boucle est bouclée, hein, dans l'achèvement de cette contre-réforme, de cette contre-logique qui vise à créer d'un côté une assurance chômage privée pour ceux qui pourront se la payer, et puis à créer un filet de l'autre, un filet de sécurité minimum pour ceux qui n'auront pas d'autres solutions. Voilà, donc ça, c'est bien la logique de fond qu'est en train de défendre Macron, qui est en train de mener petit à petit par petites touches, mais c'est bien celle-là en tout cas. C'est un peu le cas général, mais dans ce cadre-là, la réforme là qui est passée au bout de 2 ans, puisque initialement elle est passée en novembre, elle était présentée en novembre 2019, hein, initialement, c'est ça, si on se rappelle les choses, c'est novembre 2019, hein, l'entrée en vigueur initiale de la réforme, hein, puisqu'il y avait deux paliers, novembre 2019 avec le durcissement de l'accès au droit pour passer à 6 mois de durée de travail. Et un deuxième palier en avril 2020 avec la réforme du SJR. Voilà. Donc, tous ces trucs-là, tous ces dispositifs-là, qui ont connu différents.
C'est le salaire journalier.
De référence. Mais je vais y revenir. Hein,
d'accord.
Mais toutes ces mesures-là qui ont connu différentes aléas, notamment avec le Covid, hein, tout le monde sait. Voilà. Mais effectivement, qu'on finit après plusieurs recours et mobilisation, la mobilisation des intermittents du spectacle en printemps 2021, comme chacun sait, et plusieurs recours qui ont permis de reporter les affaires,
d'entrancher,
mais qu'on finit par malheureusement rentrer en vigueur et au 1er octobre pour le SJR et au 1er décembre pour le passage à 6 mois d'affiliation. Et le retour à la dégressivité au 7e mois pour les salaires d'ado, 44 500 euros. Ouais. Donc voilà, donc cette réforme-là, moi, là, ce que je propose sur cet aspect-là, c'est de prendre un peu de temps là-dessus, parce que, sous un certain aspect, peut-être fier ou d'autres, sur d'autres aspects, mais sous un certain aspect, parce que, effectivement, nous, voilà, qui sommes salariés de Pôle emploi, qui sommes effectivement, comment dire, avons la lourde charge, pas de l'appliquer, parce que c'est pas le mot, parce qu'on a le combat, on a encore moins le rôle, contrairement à ce que nous fait faire la direction, de la promouvoir, parce que là, on a tout un tas d'éléments de langage où il faut dire, expliquer en quoi cette réforme peut être utile, etc., etc. Bref. Donc, on n'est évidemment pas là pour la promouvoir, à répéter la propagande de la direction. Ça, c'est vraiment la première chose à dire. C'est peut-être évident, mais ça veut même en le disant, parce que bon, c'est peut-être pas le cas de forcément tous les conseillers de Pôle emploi. Enfin, en tout cas, de notre point de vue, nous, à le Sud, c'est bien évident. On va pas promouvoir cette politique-là. Après, évidemment, ce qui se passe, c'est que comme elle est paramétrée informatiquement, de toute façon, le système fait beaucoup de choses. Et ce qu'on a au moins, il y a deux choses, c'est la combattre dans la rue, dans les manifestations. Bon, ça, pas plus tard que samedi, et on continuera, c'est évident. Et puis, mais au moins aussi, évidemment, essayer de la comprendre, parce que je vous assure que elle est pas, c'est ce qu'on appelle au-delà d'être dégueulasse. Ça, c'est. J'apprends rien à personne, elle est aussi très compliquée. Donc, il faut déjà arriver à la comprendre nous-mêmes pour pouvoir l'expliquer, enfin, pour pouvoir expliquer en tout cas aux gens qu'on reçoit de quoi ça retourne. Donc, pour faire court, pour essayer d'expliquer de façon la plus simple possible, entre guillemets, c'est que cette réforme, elle a comme caractéristique. En gros, quand on discute d'allocation de chômage, il y a toute une série d'étapes entre toute la période pendant laquelle on a travaillé, qui est le point de départ, et puis l'arrivée, qui est l'allocation. Voilà. Entre toutes ces étapes-là, il y a plusieurs. Entre tous ces deux points-là, pardon, il y a plusieurs étapes. Et là, cette réforme-là, elle touche à tout, sauf au point d'arrivée. C'est-à-dire. Le mode de calcul de l'allocation, il n'est pas touché. J'y reviendrai après, mais toutes les étapes avant, pour arriver au fameux salaire journalier de référence, et donc le salaire journalier de référence, tout ça, c'est impacté, évidemment. Voilà. Donc, qui n'est pas modifiée, c'est comment tu calcules ton allocation à partir du salaire journalier de référence. Et comme, évidemment, le salaire de le SJR, je vais dire SJR, ça va plus vite, est impacté, forcément, l'allocation est impactée. Donc, pour faire très court, l'allocation, elle est calculée à partir du SJR, et c'est soit 57% du brut, soit 40,4% du brut, plus une part fixe de 12 euros. Actuellement, 12,12 €.
Attends, voilà. Tu peux juste répéter.
57%. Entre 57% et 75% du brut, on ne peut pas dépasser 75% du brut. Voilà.
Du SJR,
voilà. Ce qui va être retenu, c'est le plus favorable entre 57% du SJR et 40,4% plus la part fixe de 12,12 €. C'est ça qui est retenu. Donc il n'y a que ça qui ne change pas. Mais comme avant, le calcul du SJR est modifié, forcément, le résultat final change, c'est assez évident. Et donc ce qui change, pour revenir dans les étapes précédentes, pour essayer de ne pas être trop long, c'est ce qui change, c'est toute la filiation qui va être retenue, c'est-à-dire la durée de travail qui va être retenue, la période de calcul qui va être retenue, et la durée qui va servir à diviser le montant retenu au niveau de la période de calcul pour arriver au montant du SJR. Alors bon, c'est pas évident sans faire trop de dessins, donc je sais pas être trop embrouillé, parce que bon, mais ouais, je vais essayer de faire juste deux éléments, puis après peut-être ce sera des questions, parce que sinon, un premier élément, c'est que, premièrement, la rupture, c'est que avant, le calcul était pris sur les 12 derniers mois. Voilà, d'accord. Ouais. On regardait les salaires sur les 12 derniers mois avant la fin de ton contrat de travail. Voilà. Tu finis un contrat de travail le 1er décembre 2021, on regarde jusqu'au 30 novembre 2020. Bon. Là, ils ont décidé que vous allez prendre sur les salaires sur toute la période travaillée, donc 24 mois ou 36 mois, selon l'âge.
Selon l'âge.
Voilà, selon 24 mois jusqu'à 53 ans, et 36 mois au-delà de 53 ans. Ça, c'est selon l'âge. Voilà. Donc ça, c'est existait déjà, ces conditions-là. Mais pour le calcul, c'est pris sur cette période-là. Donc, et c'est là qu'est la rupture. C'est-à-dire que sur 24 mois ou 36 mois, même y compris plus longtemps, parce qu'ils intègrent les périodes d'allongement Covid, qui peuvent aller jusqu'à 336 jours, c'est-à-dire 8 mois en tout, ça peut remonter très très loin. Et donc, ce qui fait que pendant ces périodes-là, du coup, et c'est là qu'il y a la rupture avec le fait que l'allocation est basée sur le salaire des jours travaillés. Oui. Hein, c'est ça, normalement, en principe. Oui. Là, forcément, du coup, bah, tu intègres ton calcul des périodes non travaillées, où tu étais en maladie, ou effectivement en chômage, ou en d'autres situations, congé de paternité, etc. Oui, etc. Et donc, après, il y a une formule. Et du coup, c'est pour ça que je dis que ça complexifie les choses, parce que, voilà, c'est... Et pour les gens, pour les privés d'emploi concernés, et pour faire le calcul au niveau de Pôle emploi, c'est que du coup, ils sont obligés de réinventer les formules, et franchement, de malades, vraiment de malades, pour arriver à faire le calcul, à reconstituer le salaire à partir des salaires réduits des périodes où tu étais en chômage ou en maladie. Voilà. Donc la formule de calcul, la formule générale de calcul, après je rentre dans les détails des autres formules, parce que moi-même je ne connais pas par cœur honnêtement, mais la formule générale de calcul, ça va être contrat par contrat, c'est-à-dire que sur 24 mois ou 36 mois, tu as eu 25 contrats, il va falloir prendre contrat par contrat. Donc, là, je donne à voir un peu le temps que du coup ça prend, forcément, parce que voilà, donc c'est ça aussi derrière que ça introduit, c'est le temps que ça va prendre. Contrat par contrat de reconstituer. Alors, je fais la formule générale, hein, je ne rentre pas dans les... C'est, tu vas avoir le salaire de référence, qui correspond au contrat en question, un mois, deux mois ou plus, multiplié par ce qu'ils appellent un coefficient de majoration, qui correspond justement aux périodes où tu avais un salaire réduit ou pas de salaire, là, qui correspond à une formule spécifique. Voilà, ça c'est le numérateur tout en haut, qui va être regrouper tous les salaires sur la période en question, plus les primes. Les primes sont intégrées, mais elles peuvent être minorées en cas de ce qu'on appelle dans le jargon les périodes non déclarées sanctionnées, c'est-à-dire les périodes où tu as travaillé mais que tu n'as pas déclaré au-delà de 3 jours. Si au-delà de 3 jours, tu n'as pas déclaré un boulot, ce n'est pas pris en compte. Voilà. Et là, petite parenthèse, cocasse, c'est pas le mot, enfin petite parenthèse, c'est que là, il se trouve que en ce moment, au niveau du système informatique de Pôle emploi, il y a un bug qui fait que les périodes non déclarées sanctionnées, les périodes d'activité sont considérées comme des périodes non déclarées. Il y a des périodes non déclarées qui sont considérées comme non sanctionnées alors qu'elles ont bien été travaillées. Voilà, c'est un bug donc, qui est en cours de,
comme par
de correction. Mais si, oui, c'est vrai que
tu
ça paraît. C'est-à-dire qu'il y a des périodes d'activité qui ont bien été déclarées telles quelles par la personne, mais qui sont actuellement considérées, je ne dis pas toutes, hein, mais en tout cas certaines, considérées comme non déclarées. Voilà. Donc ça a les conséquences que ça a sur le calcul. Donc c'est entre guillemets un bug informatique qui va être corrigé, bien évidemment. Enfin bon, qui a des conséquences, qui est censé être corrigé cette semaine, voilà. mais qui a des conséquences, en tout cas, pour l'instant, c'est des choses qui sont aperçues au cours des calculs, qui avaient des périodes bien déclarées, mais qui n'avaient pas été prises en compte. Bref, car considérées comme non déclarées. Donc voilà. Et donc, le fait d'avoir des périodes non déclarées va diminuer le montant des primes pris en compte, s'il y a des primes. Hein. Donc voilà, en tout cas, tous les salaires fois le fameux coefficient de majoration, et qui va être divisé par le nombre de jours correspondant à la période dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire au moins 24 mois ou 36 mois, plus l'allongement lié au Covid, donc ça peut aller jusqu'à des durées de 1067 jours, qui fait une somme quand même conséquente, une durée conséquente, parce que c'est le diviseur, d'où lequel tu vas retirer. C'est là la pondération qu'ils ont mis en suite à la contestation du décret, enfin, au recours gagné en mars 2021, après, enfin, sur le décret de mars 2021, on va retirer ce qu'ils appellent, dans le jargon, des événements neutralisant durée. Je suis désolé, les END, ça s'appelle, événements neutralisant durée. C'est des événements, enfin des périodes pendant lesquelles tu es notamment en maladie, par exemple, qui vont être retirées de la durée pour baisser le diviseur, voilà, du coup remonter un peu le montant du salaire du SJR, voilà, plus un coefficient qui s'appelle réduction inappartenance, qui est encore une formule aussi de malade, pour soi-disant minorer le nombre de jours non travaillés pendant la période, enfin minorer l'impact du nombre de jours non travaillés dans la période en question.
Voilà. Coefficient de réduction.
Réduction, ça s'appelle réduction inappartenance. C'est-à-dire le nombre de jours où tu n'as pas travaillé. Bon, tout ça pour dire que ça fait une formule. Et là, c'est la formule générale. Mais là, je ne rentre pas dans le détail des formules détaillées qu'on a, bien sûr, mais enfin, en tout cas, qui fait que. Alors, bien sûr, le système calcule tout ça, hein, évidemment, mais après, il faut justement vérifier si tout ça, ça a bien été fait correctement pour ne pas léser le privé d'emploi. Voilà, donc ça pour dire que, voilà, on est sur une réforme qui, au-delà d'être bien sûr injuste, puisqu'elle prend en compte les périodes non travaillées, au-delà des. Hein, il ne se passe pas que sur les 12 derniers salaires, voilà, et vraiment une usine à gaz, pas évidente à comprendre. Et dernière chose, j'arrête là-dessus, parce que c'est long, mais vu que. Ça entraîne beaucoup de demandes de documents, parce que voilà, tu remontes sur 24 mois ou 36 mois, ben forcément, il y a plus d'occasions d'avoir des périodes de maladie, de maternité, enfin de X situations, de la vie personnelle. Donc, pour pouvoir calculer les demandes d'allocation rapidement, ce qui est normal, puisque on ne peut pas se permettre. Les gens ne peuvent pas se permettre d'attendre 107 ans pour avoir l'allocation, c'est évident. Et puis de toute façon, c'est notre boulot, ça c'est normal. Et du coup, il y a un calcul qui est fait sur la base d'éléments en notre possession.
Ah oui.
Un calcul provisoire.
Ah.
Et qui peut amener des taux très faibles. Voilà. Donc, c'est aussi une des conséquences qu'on découvre de cette réforme. C'est que ça amène des taux très faibles rapidement, et que si tu ne fournis pas les justificatifs qui permettent de reconstituer les salaires des périodes où tu avais un salaire réduit ou pas de salaire, là par exemple, là encore des exemples où, là pas plus tard qu'aujourd'hui, on a un calcul provisoire 9 euros jour, et en saisissant une collègue, pas moi aussi, qui a raconté ça, 40 bulletins de salaire, ben, tu passes à 36 euros. Mais il a fallu. Tu vois, tu as un premier calcul à 9 euros au jour. Bon, il faut, voilà. Donc, et ça va être. Et si la personne ne fournit pas tout ça, ben, elle va rester à 9 euros au jour. Donc elle n'a pas fourni ça qui permet de remonter le taux. Voilà. C'est aussi. Ça, c'est une des conséquences de la réforme qu'on ne peut pas forcément anticiper tout de suite, même si on pouvait se douter qu'on savait que ce serait des saloperies bien. On voit maintenant qu'on mesure plus concrètement dans l'immédiat. Et dernier petit truc, on voit que de toute façon. L'argument de banque était de dire oui, ce sera des droits certes moins faibles, moins élevés,
oui, mais plus longs.
Bah, il y a juste un truc tout de suite qu'on voit, c'est que comme on voit sur la je disais tout à l'heure, la durée d'affiliation peut remonter jusqu'à 1067 jours. Donc, vraiment, selon Madame Borne, Varne, quand tu as moins de 53 ans, par exemple, tu devrais avoir 1067 jours de droit. Logique. Eh bien non. Pourquoi ? Parce que jusqu'à moins de 53 ans, la durée maximum est 730 jours. Donc, de toute façon, si tu as 1067 jours dans ta période de référence calcul, bah, de toute façon, elle va s'arrêter à 730 jours, de toute façon. Donc, voilà, petit argument pour... Bon, ça, on savait qu'elle mentait, ça, là-dessus, on n'avait pas d'illusion, c'est pas le souci. Mais voilà, dans les faits, concrètement, de toute façon, ça marche pas aussi, parce que, voilà, il y a une borne, de toute façon, qui est 730 jours quand t'as moins de 53 ans, de toute façon.
Pour pas réveiller.
Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission des chômeurs et précaires mode d'emploi. Dans le cadre des cours sur le droit du travail, à l'initiative de Stop Précarité, donnée à la Bourse du Travail les premiers lundis de chaque mois, nous vous transmettons ce soir le débat sur la nouvelle loi de l'assurance chômage et ses nouveaux modes de calcul d'indemnisation. Cela s'est déroulé le 6 décembre 2021 avec Luc Chevalier de Sud, Jacques Lambert de la CNT et Pierre Garnaudier de la CGT. Le prochain rendez-vous est le 10 janvier 2022 avec un nouveau débat sur les prud'hommes à la Bourse du Travail, 3 rue du Château d'Eau, de 19h à 21h. Intervenante: Hélène Ménot, universitaire, et Rachel Spear, avocate. Allez-y, nombreux.
En plus, il y a une chose qui est vraie, hein, c'est qu'aujourd'hui, Pôle emploi, toutes ses missions sont en train d'être privatisées.
Oui.
Et que nous, c'est compliqué, parce que devant les agences, aujourd'hui, Pôle emploi, pour les chômeurs, c'est des galères quotidiennes.
Oui.
Et sur tout un tas de questions. Quasiment 2 milliards d'indus réclamés aux chômeurs l'année dernière.
Voilà, il faut en parler.
Quand on doit expliquer d'où provient l'explosion des indus,
milliards.
Parce qu'il y a 5 ans, c'était pas 2 milliards, déjà, il y a 2 ans, c'était 1,4, c'était déjà énorme, mais du coup, c'est en augmentation.
Oh,
et ces indus, une grande majorité arrive parce qu'effectivement, la mission de saisie des fiches de paie est prise par Tessy. Et Tessy, ils sont payés à la tâche, c'est-à-dire au papier numérisé.
Oh.
Donc vous allez à Pôle emploi. Et puis on saisit une attestation employeur, une. Puis on en saisit une deuxième, deux. Il peut arriver que Tessy envoie à Pôle emploi les deux attestations employeur comme si c'était deux contrats différents. Boum, indu.
Voilà.
Il peut y avoir des problèmes au niveau de l'indemnisation, puisque aujourd'hui, l'indemnité, enfin c'est pour aujourd'hui, c'est plus tout le temps, elle est calculée au niveau du dernier jour travaillé. Dernier jour travaillé payé. Mais quand c'est pas un agent de Pôle emploi qui rentre.
Ouais.
L'attestation employeur et que lui il vérifie tout de suite si le patron il a bien mis le dernier jour travaillé
voilà.
Payé ou non. Ou si par exemple le dernier jour travaillé en fait c'était pas avant une période de congé payé ou d'arrêt maladie. Et bien automatiquement, ces mois-là où le salaire il est réduit, ils sont pris en compte dans les 12 derniers mois de salaire. Donc ça fait qu'aujourd'hui, la privatisation, c'est déjà la galère. L'histoire des prestataires, donc c'en est plusieurs nouvelles prestations qui s'appellent Accélère Emploi, Toutes les clés pour mon emploi durable, Un emploi stable, c'est pour moi.
C'est les deux dernières.
Ces nouvelles prestations-là, elles suivent une autre prestation qui s'appelait auparavant Active Emploi.
Ah oui.
Et le nouvel élément, c'est qu'auparavant, les prestataires, c'était les conseillers Pôle emploi qui plaçaient les chômeurs dans ces prestations.
Voilà.
Là, aujourd'hui, les prestataires, ils ont reçu la délégation de service public de la part de Pôle emploi et ils peuvent directement appeler les privés d'emploi, les précaires, pour leur dire « Viens sur ma prestation, tu vas voir, c'est génial. » Et si on n'y va pas, eh ben on est radié. Et il y a des conflits dans les agences où il y a des chômeurs qui vont voir leur conseiller en leur disant « Mais toi, t'es un malade, tu m'as radié parce que je suis pas venu au rendez-vous alors qu'en fait, je t'ai fait. Donc, t'es un fou. » Et le conseiller lui dit « Mais enfin, de quoi tu me parles ?» Il dit, mais de la prestation. Il dit, mais c'est pas moi qui t'a convoqué. Il dit, mais c'est pas moi qui m'a convoqué. La convocation, il y a le logo Pôle emploi dessus.
Oui.
Il dit, non, c'est pas moi. C'est directement le prestataire. directement de passer. Donc c'est scandaleux parce que c'est fait pour contrôler, radier les privés d'emploi.
Justement, je me permets une question parce que je crois que c'est d'actualité. J'ai cru comprendre que déjà maintenant, dans la recherche d'emploi, qui est obligatoire, quelqu'un qui envoie des candidatures par téléphone ou par courrier postal, parce qu'il n'a pas Internet ou qu'il n'a pas de quoi se payer un ordinateur ou qu'il n'a pas de quoi payer le cyber-espace, il se fait radier. Or, le numérique n'est pas encore obligatoire en France, donc il me semble que c'est absolument illégal. Or, de plus en plus de chômeurs, j'ai entendu dire, se font radier parce qu'ils ne peuvent pas prouver qu'ils ont cherché un emploi par la voie numérique. Je voulais savoir si c'était le cas et comment on s'organise face à ça, parce que du coup, moi je suis entourée et sollicitée de gens qui ont des trop-perçus épouvantables alors qu'ils ont fourni les éléments, c'est des erreurs, qui mettent très longtemps à être corrigées, ou alors qui se font radier pour des motifs que je voudrais bien vérifier si c'est légal.
Alors, le contrôle de la recherche d'emploi, elle se fait... aujourd'hui, alors déjà c'est tout à fait impartial, hein, puisque Pôle emploi il est à la fois le juge et le parti.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est celui qui lance le contrôle, ouais, qui au final prend la sanction.
Voilà.
Donc ça je veux dire, il n'y a que pour les chômeurs que ça existe.
Ouais. Hein,
puisque c'est un principe normalement de justice où l'organisme qui donne la sanction ne peut pas être en même temps le même qui la lance. Bon, pour les chômeurs, ça c'est pas comme tous les autres.
Mais... c'est ça.
En gros, il y a deux critères. Il y a les critères de. D'efforts répétés.
Oui.
Et efforts répétés, c'est tout. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu le film, moi, Daniel Blake, mais
oui.
Dans le film, le conseiller Pôle emploi anglais lui dit, ta recherche, c'est 35 heures par semaine. Ben là, en France, c'est après, avec ce décret de 2018 là, qui a considérablement durci la répression contre les chômeurs, ben, c'est la même chose. C'est-à-dire que ces fameuses prestations-là, qui est proposé par des prestataires privés,
voilà.
C'est un des items pour juger d'une contrôle, recherche active et répétée d'emploi ou non. Donc ouais. Si on ne fait pas cette prestation-là, on peut être radié quand bien même, on pourrait justifier 50 dépôts de candidature. Nous, on a accompagné par exemple un privé d'emploi qui est journaliste. Il a fait 20 candidatures spontanées, oui. Par mail, par...
Oui.
Il a quand même été radié. Alors que dans le journalisme, en plus, il n'y a pas d'emploi.
Pourquoi il a été radié ?
Il a été radié parce qu'il n'avait pas fait de prestation, parce qu'il n'avait pas suivi une action de formation, parce que voilà. Et l'autre critère, du coup, c'est le critère de sérieux, effectivement. Et tout ça, c'est impartial. C'est impartial, c'est à Pôle emploi de juger si la recherche, elle est sérieuse ou non. Et pour Pôle emploi, une recherche sérieuse, c'est une recherche qui se fait selon les critères aujourd'hui de modernité, entre guillemets, donc, c'est-à-dire via Internet. Donc ça, c'est scandaleux. Après. Là, le but, c'est non seulement de s'organiser pour se défendre face à ça. Alors, c'est compliqué parce que aujourd'hui, la majorité des contrôles sont lancés dans des centres qui ont été spécialement créés pour faire de la radiation des chômeurs. Ça s'appelle des plateformes creux. Donc ça, des plateformes creux, centres de la recherche d'emploi. Donc ça, généralement, sauf à Paris où c'est intramuros, mais... Dans beaucoup de régions, en fait, c'est plutôt à l'extérieur des centres-villes. Par exemple, celui de Auvergne-Rhône-Alpes, il est à Andrézieux, une ville qui est moyenne, qui est à une demi-heure de Saint-Étienne et à 2h30 de Lyon. Donc, nous, on avait fait une action d'envahissement. Donc, on est allé envahir, par exemple, cette plateforme-là en disant on arrête le contrôle. Mais du coup, c'est compliqué d'arriver à s'organiser pour vraiment faire annuler la décision de radiation. Quand ça vient d'une plateforme crevée, bien souvent, ça vient quand même de là. Après, il y aurait le recours juridique qui ne serait pas inintéressant, puisque, encore une fois, aujourd'hui, il n'y a aucun jugement qui dit qu'est-ce qu'une recherche active et sérieuse.
Ouais.
Même si d'ailleurs, le jugement serait négatif, même si aujourd'hui le tribunal dirait bah non. Votre recherche n'est pas sérieuse parce que ta 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 ta. Au moins, on aurait quelque chose qui dit cette recherche n'était pas sérieuse parce qu'il manquait ces éléments. Aujourd'hui, ça, c'est qu'entre les mains de Pôle emploi. C'est qu'entre les mains de Pôle emploi.
C'est arbitraire.
C'est totalement arbitraire.
Il n'y a pas eu de recours juridique ?
Non, pas collectif. Non, mais moi, je faisais collectif hein, parce que une personne...
Bah, bien sûr.
Mais... Voilà pour le contrôle. Alors, pour la formation, parce que pour revenir sur la question que tu avais, et sur cette idée-là de la privatisation, parce que ça, c'est important, et aujourd'hui, tout a été privatisé. Tout a été privatisé, toutes les missions de Pôle emploi, et y compris les missions du service public de l'emploi et de la formation professionnelle, tel qu'il avait été pensé à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Il y a une loi qui est sortie en 2018, qui s'appelle « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel ».
Oui.
Cette loi-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle lie les deux questions. Elle lie la question de l'assurance chômage, de l'indemnisation. C'est cette loi-là qui consacre la reprise en main de la gestion de l'assurance chômage par l'État. Elle lie aussi la question de la formation professionnelle. Cette loi-là, grossièrement, elle a à la fois consacré la reprise en main des instituts de formation professionnelle par l'État. Auparavant, c'était un peu paritaire. Et puis surtout, elle a transformé les congés individuels de formation en comptes personnels.
Hein,
donc, la logique qui était tout à fait partielle, mais comme tu disais, de redistributivité pour aller vers de la personnification des droits à la formation, cette loi-là, c'est exactement ce qu'elle a fait. Et ça se matérialise par un transvasement des droits à la formation en heures, en monnaie. Ça a monétarisé le droit à la formation. Pour les chômeurs, c'est particulièrement dramatique. Pour tous les travailleurs, hein, mais pour les chômeurs, c'est partiellement dramatique parce que de plus en plus, on doit cofinancer des formations professionnelles. C'est-à-dire que soit le compte personnel de formation, il permet de financer une formation dans son intégralité, et là, Pôle emploi a un droit de regard, mais en dernier ressort, sur l'obtention de droits de formation. Ouais. Soit on doit obtenir un cofinancement, et là, du coup, Pôle emploi a non seulement le droit de regard, mais en plus, doit cofinancer. Et ça, c'est non. Ça, c'est non. Pôle emploi ne finance jamais. Des formations, voilà. que nous on demande.
Si, il arrive des fois,
donc,
quelques cas.
Ça veut dire que, du coup, qu'est-ce que Pôle emploi finance? Qu'est-ce que Pôle emploi finance? Aujourd'hui, la formation professionnelle, à quoi elle sert? Aujourd'hui, la formation professionnelle, elle ne sert qu'à une seule chose, et c'est exactement comme l'assurance chômage, c'est pour ça que c'est intéressant de les deux, elle sert à accompagner la précarité.
Voilà.
C'est-à-dire que vous regardez les formations qui sont payées soit par Pôle emploi, soit par la région, puisque c'est les deux modes de financement qui permet d'avoir une formation, ça va être des métiers qui sont en tension,
voilà.
Par exemple chariste.
Ouais.
Voilà.
Voilà.
Parce que chariste, il y a un turnover de malades parce que les conditions de travail elles sont trop dures, et puis parce que c'est que des contrats précaires. Ça va être des métiers qui sont. Dans l'industrie dure comme soudeur, tuyauteur, chaudronnier, voilà.
Qui a eu une formation payée par Pôle emploi, des miettes, hein. Il n'arrivait plus à manger parce que c'était à peine au-dessus de son loyer. Très inférieur à son salaire, mais payé par Pôle emploi pendant un an, il a eu son diplôme, mais en attendant, il pouvait crever de faim.
Voilà, parce que
il crevait de faim, carrément.
Voilà, on y a sur le financement. Pôle emploi,
la formation.
Est-ce qu'on peut parler de mobilisation après?
Parce qu'aujourd'hui, donc pour quand on est en formation qui a été acceptée par Pôle emploi, soit on est indemnisé au titre de l'assurance chômage, et donc du coup, on bascule en AREF, on garde nos indemnités chômage.
C'est ça.
Hein, mais pour avoir une indemnité chômage, il faut être disponible pour rechercher un emploi, hein, c'est un des critères. Donc quand tu es en formation, tu n'es plus disponible. Hein, donc tu bascules d'ARE, de l'ARE normale pour tous ceux qui sont inscrits en catégorie A, en gros à l'ARE F, et là tu passes en catégorie 2, mais tu continues à être indemnisé. Si tu n'es pas indemnisé au titre de l'assurance chômage, il y a ce qu'on appelle l'ARFF, RFF, revenu de fin de finance, de fin de formation.
Ah oui.
Et ça, c'est 600 euros par mois.
Il faut vivre avec ça. Hein.
Donc c'est bien évidemment insuffisant. Et c'est parce que c'est insuffisant que les chômeurs quittent la formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le manque de ressources, c'est le premier motif d'abandon d'action de formation, hein, qui est compris un motif pour être allié. Donc le droit à la formation, le droit à la formation, c'est un droit à conquérir, et surtout un droit à la formation qui parte de nos aspirations individuelles, c'est-à-dire moi j'ai envie de devenir designer, j'ai envie de devenir, je ne sais pas, médecin, j'ai envie de devenir plâtrier peintre, menuisier, et non pas des besoins en main-d'œuvre du patronat, et immédiat du patronat. Voilà, donc ça c'est un enjeu, et là-dessus on a reculé, parce qu'on avait réussi à prendre une part de la décision de est-ce qu'on finance ou non, et on avait réussi, grâce à l'AFPA et au GRETA, à gagner des espaces publics qui dispensent des formations. Là, aujourd'hui, il y a un vrai recul. C'est-à-dire que l'AFPA, il est en train de crever. Et encore une fois, aujourd'hui, le patronat reprend les mains. Voilà, c'est là où je veux en venir. Reprend les mains. Il y a deux ministères qui valident la formation professionnelle. Le ministère de l'Éducation nationale. Le ministère de l'Éducation nationale, c'est des diplômes, c'est des qualifications. L'autre ministère, c'est le ministère du Travail.
C'est ça.
Le ministère du Travail, c'est des certificats de qualification professionnelle.
Hein?
Et encore une fois, si je fais le lien entre l'assurance chômage, la réforme et la formation professionnelle, la réforme de l'assurance chômage, on passe d'une indemnité qui était fonction du salaire antérieur à une indemnisation qui est en fonction de la nature de l'activité. L'activité et plus le salaire. Si je prends la formation professionnelle, on part d'une formation professionnelle construite sur des qualifications, des diplômes qui donnent droit à une reconnaissance de salaire dans des grilles salariales de branche, à une formation professionnelle qui est construite à partir de certificats, c'est-à-dire de compétences, qui, elles, donnent droit d'avoir accès à une activité qui est non reconnue dans des conventions collectives.
Ah bon ?
Non reconnue. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les CQP qui sont reconnus dans les grilles salariales.
Wow.
Et ça, c'est extrêmement grave, parce qu'in fine, le but du jeu, c'est d'avoir, par exemple, Renault qui a sa propre formation sur les machines de Renault, non reconnues dans les conventions collectives. C'est-à-dire que ce sera le SMIC. Et puis quand Renault voudra être jeté parce que plus besoin de toi, on ne va pas aller bosser chez Peugeot, on ne va pas aller bosser dans les entreprises. Donc c'est la dictature du patronat. C'est la dictature du patronat dans l'entreprise, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les liens entre le dedans et le dehors. Pour mettre en place la dictature du patronat, bah, qu'est-ce qu'on fait? On reprend en main la gestion paritaire de certaines caisses, caisses de formation professionnelle, caisses de l'assurance chômage.
Le temps de finir la bouteille, j'aurai rallumé un soleil, j'aurais trouvé du pain qui rime, avec des pièces d'un centime, rire et pleurer, ça sera pareil, le temps de finir la bouteille.
Cette émission se termine, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour AC, mais aussi les trois autres vendredis pour les autres collectifs. Bisous aux filles et poignées de main aux garçons ou le contraire. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Restez vigilants et contestataires. Et surtout, surtout, ne lâchez rien.
Les adjudants de syndicats, la soutane des avocats, les carnets bleus du tout Paris, le dernier né du dernier cri, la force, le sang et nos aïeux. Le temps de tuer la bouteille, le temps de tuer la bouteille.